Vous écoutez France Culture.
C'est l'heure du journal de la rédaction. Avec vous, Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Romain, bonjour à toutes et à tous. La rentrée politique en France. Ce matin se tient le premier conseil des ministres. Après la pause estivale, les chantiers sont d'ores et déjà connus. Ce qu'il est moins, c'est de savoir comment tout cela va se mettre en place dans un contexte budgétaire moins favorable que prévu. Analyse dans ce journal de Sophie Delpont et Hakim Kasmi. Donald Trump a essuyé hier un double revers judiciaire. D'une part avec son ancien avocat, qu'il a personnellement impliqué devant un juge. Et puis de l'autre, son ex-chef de campagne, lequel a été déclaré coupable à son procès. Deux affaires qui viennent s'ajouter donc aux multiples autres impliquant déjà plusieurs proches du président américain qui menacent de l'atteindre directement. Explication dans le journal de Marie-Pierre Véro. Quand Facebook s'en prend à la désinformation venue d'Iran et de Russie, le réseau social américain a annoncé avoir mis fin à des opérations de manipulation de grande envergure initiées dans ces deux pays. Décryptage avec Laura Dulieu. Enfin, malgré ces dénégations, les accusations portées depuis le début de la semaine contre l'actrice italienne Asia Argento ont jeté un pavé dans la mare du mouvement de libération de la parole féminine. Avec Christine Moncla, nous essaierons de comprendre comment certains essayent à présent de tirer profit des interrogations suscitées par cette nouvelle affaire. Et puis à 12h45, ce sera l'heure de retrouver la grande table d'été avec vous, Romain Bec-de-Lièvre. Menu aujourd'hui,
une première partie sur le film de Spike Lee, Black Klansman, qui sort aujourd'hui. En seconde partie, portrait de Verena Paravel et Lucien Castan-Taylor, réalisateur.
Merci, à tout à l'heure. À peine rentré du fort de Brégançon hier, Emmanuel Macron retrouve aujourd'hui le palais de l'Élysée avec ses valises encore bien remplies. La grande table du Conseil des ministres ne sera pas de trop ce matin pour y entreposer tous les dossiers de cette rentrée, de la réforme de l'assurance chômage aux retraites, en passant par celle de la fonction publique ou bien encore de l'hôpital, sans oublier les fameux déficits publics. L'addition des chantiers est impressionnante, ou quand même dans le nouveau monde, il semble bien difficile de renouveler les défis qui attendent l'exécutif. Sophie Delpont, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à l'Élysée où le Conseil des ministres n'est toujours pas terminé. Quoi qu'il en soit, la réunion de ce matin a surtout pour vocation de montrer combien, après la pause estivale, plombée notamment par l'affaire Benalla, tout le gouvernement est à nouveau, sinon en ordre de bataille, du moins de marche accélérée, voire forcée pour lancer les prochaines réformes.
Oui, c'est un redémarrage en trombe pour l'exécutif qui espère bien laisser derrière lui l'affaire Benalla et ses deux motions de censure cet été. Détermination et combativité, voilà pour les deux maîtres mots martelés par Emmanuel Macron en cette rentrée. Pas de changement de braquet ni de méthode, pas de ralentissement, au contraire, promet le chef de l'État. Au menu de cette deuxième année du quinquennat, après le Code du travail l'année dernière, deux autres pans majeurs du modèle social à la française sont sur la table. Effectivement, la réforme des retraites avec la fin des régimes spéciaux et la réforme de l'assurance chômage. Au programme également, la réforme de la santé et de l'hôpital. Pas de tournant social en perspective, prévient l'entourage d'Emmanuel Macron, qui préfère réaffirmer le fameux concept du « en même temps » en mettant en avant l'examen de la loi Pacte pour la croissance et la transformation des entreprises, qui devrait avoir lieu en parallèle de l'annonce ce mois-ci du plan pauvreté, dont la présentation a été reportée cet été. Mais avec les arbitrages très serrés qui doivent avoir lieu à 15h, juste après le Conseil des ministres, aujourd'hui, les coupes budgétaire ne devrait pas rectifier l'image du président des riches si l'exécutif applique des coups de rabot, notamment sur les aides sociales et les aides au logement. Autre élément majeur, le projet de réforme constitutionnelle qu'Emmanuel Macron se dit déterminé, là encore, à mener à son terme. Un projet qui avait été bloqué cet été après l'éclatement de l'affaire Benalla. Pour cette réforme, pas de calendrier pour l'instant. Édouard Philippe devrait l'annoncer avant lundi prochain, promet Matignon.
Merci Sophie Delpont en direct de l'Élysée avec Benjamin Thuot pour les moyens techniques. Alors on l'a bien compris, aucun ralentissement n'est envisagé, ou dit autrement, le gouvernement n'entend pas se laisser miner par la mauvaise conjoncture économique, qu'il s'agisse des chiffres de la croissance moins rapide que prévu ou même des menaces que ferait désormais peser l'inflation. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas.
Ce ralentissement actuel va pourtant nécessairement peser sur les moyens comme sur les ambitions. Comment dès lors le gouvernement compte-t-il s'adapter ?
Et effectivement, avec une croissance seulement de 1,7% contre 1,9% attendu, soit le plus mauvais taux de la zone euro au premier semestre, deux solutions s'offrent au gouvernement. Soit il ne prépare pas d'économie supplémentaire et assume une hausse du déficit public l'année prochaine, ce qui risque de faire déraper jusqu'à 2,6% le produit intérieur brut, d'après les calculs du rapporteur général de l'Assemblée nationale, ce qui serait un mauvais signal envoyé à Bruxelles, qui regarde de très près les déficits des pays de l'UE. contre-solution. Le gouvernement pourrait compenser les efforts du ralentissement, les effets du ralentissement de la croissance économique, eh bien, par les économies supplémentaires. Sauf qu'il s'est déjà lié les mains par des précédents engagements. Envers la sécurité sociale, d'abord, en promettant de ralentir les dépenses de santé, il a également promis aux collectivités de ne pas leur couper les vivres, en échange que ces dernières, eh bien, fassent des efforts sur leur budget de fonctionnement. Des collectivités territoriales qui ont déjà payé un très lourd tribut, avec plus de 16 milliards d'euros de dotations en moins ces dernières années, ce qui a déjà eu de très fortes répercussions sur le monde associatif, par exemple, ainsi que sur les foyers les plus fragiles, notamment en termes d'aide. Il est donc déjà prévu que l'État lui-même endosse une grande partie des efforts l'année prochaine, et plus particulièrement auprès des ministères du Logement et du Travail. Leurs crédits seront respectivement réduits de 7 et de 13%, ce qui représente plus de 3 milliards d'euros d'économies et de baisses. Le gouvernement, déjà taxé d'avoir une politique trop libérale au profit des familles les plus aisées, va donc devoir opérer un virage pour envoyer un signal à son aile gauche s'il ne veut pas rester isolé.
Merci Hakim Kasmi. Il n'y a pas de loi du silence dans l'Église face aux affaires de pédophilie impliquant des prêtres. Voilà ce qu'a assuré ce matin le porte-parole de la Confédération des évêques de France au lendemain d'une pétition lancée contre le cardinal Barbarin. Nous l'évoquions dès hier soir. Un prêtre du diocèse de Valence, Pierre Vignon, a en effet lancé une pétition en ligne réclamant la démission de l'archevêque de Lyon poursuivi pour non-dénonciation d'agression sexuelle. Même si aux États-Unis la couleur noire est traditionnellement associée au jeudi, la journée d'hier aura fait exception. La condamnation de l'ancien directeur de la campagne de Donald Trump, Paul Manafort, mais aussi le plaidé coupable de son ancien avocat, Michael Cohen, ont fait vivre hier au président américain une journée particulièrement sombre et éprouvante. Un double revers judiciaire aux conséquences potentiellement désastreuses pour le chef de la Maison-Blanche. Marie-Pierre Vérot, bonjour.
Bonjour.
Alors commençons peut-être par préciser de quoi il relève dans chacune de ces deux affaires concernant donc deux anciens collaborateurs de Donald Trump.
Et tout d'abord le plus spectaculaire, le revirement de Michael Cohen dans une salle bondée du tribunal fédéral de Manhattan. L'ancien avocat de Donald Trump, durant plus de 10 ans, celui qui se disait prêt à prendre une balle pour son patron, a plaidé coupable de 8 chefs d'accusation. Fraude fiscale, fraude bancaire, mais surtout violation de la loi électorale, et c'est la bombe. Michael Cohen dit sous serment que c'est à la demande, voire sur l'ordre du candidat républicain, qu'il a acheté le silence d'une actrice porno et d'une ancienne playmate sur la relation qu'elles disent avoir entretenue avec Donald Trump. Des paiements, ajoute-t-il devant le juge, dans le but principal d'influencer les élections. Violation de la loi électorale, c'est un crime fédéral. Michael Cohen ne s'est donc pas contenté de dire que Donald Trump avait menti, en disant dans un premier temps tout ignorer de ses versements. Il implique le président américain dans un crime que ce dernier lui a demandé de commettre. Quasiment au même moment, l'ancien directeur de campagne de Donald Trump, le sulfureux lobbyiste Paul Manafort, était lui condamné par un jury populaire pour fraude bancaire et fiscale et dissimulation de comptes bancaires à l'étranger. Paul Manafort, rappelons-le, avait été contraint de quitter son poste de directeur de campagne en août 2016 après des révélations sur la rétribution de ses activités pour l'ancien président pro-russe d'Ukraine, Viktor Yanukovych. Après 4 jours de délibération, le jury ne s'est accordé que sur 8 des 18 chefs d'accusation, mais le procureur a jusqu'au 29 août pour dire s'il souhaite le voir rejugé sur les 10 autres chefs. Et ce n'est qu'un début pour celui que Donald Trump qualifiait hier d'homme bien, puisque le 17 septembre l'attend un nouveau procès, cette fois pour blanchiment d'argent et entrave à la justice, des accusations potentiellement encore plus dévastatrices.
Alors ces deux affaires sont effectivement embarrassantes pour Donald Trump, et tout particulièrement l'aveu de Michael Cohen, puisque vous le disiez, il sous-entend que Trump pourrait avoir lui-même commis un délit. Et ce faisant, la question, comme d'ailleurs dans toutes les autres affaires empoisonnant le mandat de l'actuel président des États-Unis, est de savoir jusqu'à quel point elle pourrait provoquer sa chute.
Alors si l'on pense à l'impeachment, n'y sommes pas. Loin de là, il faudrait déjà que les démocrates remportent les élections de novembre et prennent le contrôle des deux chambres, ce qui n'est pas gagné. Mais même en étant majoritaire, il leur faudrait sans doute convaincre des élus républicains de s'associer à leur demande pour atteindre les 2/3 des voix au Sénat. En revanche, les accusations et révélations sur l'entourage du président devraient se poursuivre et finir par faire une petite musique très gênante. Michael Cohen a donc déjà mouillé directement Donald Trump. Si ces versements constituent un crime pour Michael Cohen, pourquoi ne constituerait-il pas un crime pour Donald Trump? C'est ainsi demandé son avocat. Et Cohen pourrait à présent décider de coopérer avec les équipes du procureur Mueller qui travaille sur la collusion entre l'équipe de campagne de Trump et des responsables russes. Il souhaite désormais dire la vérité, répétait ses avocats hier sur les plateaux de télévision. Ces révélations seront d'un grand intérêt pour Robert Mueller. Quant à Paul Manafort, il pourrait être tenté lui aussi de coopérer avec la justice en échange d'une remise de peine. Il a 69 ans, risque de longues années de prison et connaît beaucoup de secrets de campagne. En juin 2016, il avait notamment assisté à la fameuse réunion sur Hillary Clinton entre le gendre du président et des émissaires russes.
Merci Marie-Pierre Véraud. Faut-il y voir une preuve de l'étendue des opérations d'ingérence présumées du gouvernement russe aux États-Unis? Toujours est-il qu'hier, Facebook a annoncé avoir retiré de son site des centaines de fausses pages et de faux comptes russes, mais aussi iranien. Laura Dulieu, bonjour.
Bonjour.
On se souvient que les services de renseignement américains avaient déjà révélé que des opérateurs russes s'étaient servis, entre autres, de Facebook pour tenter d'influer sur l'élection qui a mené Trump à la Maison-Blanche. Ces accusations ont toujours été réfutées, évidemment, par Moscou. Mais cette nouvelle affaire semble prouver à tout le moins que le réseau social de Zuckerberg est bel et bien une porte d'entrée privilégiée, en somme, aux opérations de désinformation.
C'était un reproche récurrent fait à Facebook, ne pas combattre assez ses campagnes de désinformation, notamment lors de la présidentielle de 2016. Mais cette fois-ci, le réseau social veut frapper fort et pour cause. À l'approche des élections législatives américaines, en novembre, les opérations d'ingérence russe ont repris de plus belle, selon les autorités. Des pages qui peuvent être liées à des sources identifiées par le gouvernement américain comme pilotées par les services de renseignement russes. Ce sont les explications de Facebook. Mais Moscou a toujours nié ces accusations. Sur ces pages désormais fermées, on pouvait trouver des contenus sur l'Ukraine et la Syrie principalement. Une autre opération a aussi été stoppée par le réseau social, une opération initiée cette fois depuis l'Iran. Alors il s'agit de deux campagnes distinctes, précise Facebook. Nous n'avons observé aucun lien ou coordination entre elles. 652 pages, groupes et comptes ont été fermés. Derrière eux, un groupe dénommé Liberty Front Press, groupe lié à des médias d'État iraniens, selon Facebook. Mais tout cela, le réseau social ne le fait pas tout seul. Il le fait en collaboration avec les autorités, des experts et des compagnies privées. La tâche est en effet immense et ne fait sans doute que débuter.
Merci Laura Dulieu. Une nouvelle plainte déposée contre Harvey Weinstein. Emma Lohman, le mannequin devenu actrice, accuse le producteur déchu de l'avoir violée pendant le festival de Cannes. C'était en 2006. Quant à Asia Argento, l'une des premières femmes à avoir justement accusé Weinstein de viol, elle est, vous le savez désormais, elle-même soupçonnée d'avoir abusé sexuellement d'un jeune homme de 17 ans, puis d'avoir tenté d'étouffer l'affaire en lui versant quelque 380 000 dollars. Alors la star italienne nie ces accusations. Plus exactement, elle reconnaît lui avoir versé de l'argent, mais uniquement pour l'aider alors qu'il était en difficulté financière. Christine Moncla, bonjour.
Bonjour Thomas.
L'une des questions soulevées par cette affaire est de savoir si elle risque de discréditer le mouvement de libération de la parole des femmes et, le cas échéant, miner par exemple le dossier d'accusation contre Harvey Weinstein.
Alors d'un point de vue juridique, seule la nouvelle plainte d'Emma Lohman vient alourdir le dossier d'Harvey Weinstein, déjà formellement inculpé de viol sur trois autres femmes. Asia Argento, elle, n'a pas déposé plainte. Mais l'écho de sa dénonciation va bien au-delà du périmètre de la justice. Et c'est là qu'en effet, cette affaire Jimmy Bennett, du nom de ce jeune comédien qui l'accuse de viol, a déjà des conséquences. L'avocat de Weinstein aussitôt s'en est saisi. Une preuve selon lui que les accusations contre son client ont été, je le cite, « mal vérifiées ». Pour un rapide résumé des faits, Asia Argento a recruté Jimmy Bennett enfant pour jouer à l'époque le rôle de son fils dans un de ses films. Et les deux acteurs se sont d'ailleurs surnommés maman et fiston pendant des années. En 2004, Jimmy Bennett a 17 ans, il se retrouve dans un hôtel en Californie et c'est là qu'il affirme avoir été abusé sexuellement par son ami qu'il considérait jusque-là comme sa seconde mère, d'où son traumatisme et sa demande de réparation, c'est ce qu'explique son avocat. Alors le mouvement MeToo, bien sûr, tangue sous l'effet de ces révélations dénégations. Quelques figures féministes ont déjà pris leur distance, sans parler de tous ceux qui en profitent pour tenter de discréditer les milliers d'autres témoignages. Mais on observe aussi de nombreux appels à la prudence et à l'examen de conscience de la société vis-à-vis des victimes de violences sexuelles qui peuvent à leur tour devenir des agresseurs. Une manière de voir qui vaut évidemment dans les deux sens.
Merci Christine Moncla. La reprise des négociations sur le Brexit à Bruxelles hier ne s'était donné guère d'autres objectifs que de restaurer le dialogue entre Michel Barnier d'un côté et son nouvel alter ego britannique Dominic Raab, fraîchement nommé. Ni juge ni avocat, les deux hommes se sont voulus plutôt rassurants, endossant tour à tour la posture du médiateur familial habituel dans une procédure de divorce. Ils ont dit notamment vouloir désormais négocier en continu avec l'objectif, je cite, de dynamiser les discussions et sortir les problèmes du niveau technique pour passer à une résolution politique. Les familles de Coréens du Nord et du Sud séparées depuis la guerre et dont les photos des émouvantes retrouvailles ont été très largement diffusées ces derniers jours s'apprêtent à se dire au revoir aujourd'hui et probablement d'ailleurs pour toujours, car même si ces réunions se voulaient une illustration de la détente entre les deux voisins, rien toutefois ne permet d'espérer, du moins dans un avenir proche, la libre circulation des personnes sur la péninsule. On termine avec un mot de météo. Le soleil et la chaleur domineront encore cet après-midi, même si des nuages s'attarderont sur les côtes de la Manche. Attention également au risque d'orage sur les reliefs, les températures en hausse entre 21 et 35 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par M. Le Chili. Pour ma part, je vous retrouve à 18h pour le prochain journal de la rédaction.